Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Élégante ville balnéaire de la côte basque, mais qui pourrait croire que Biarritz recèle des lieux sulfureux que va explorer un trio à la tête duquel se trouve Gilles Cantagrel, conservateur des monuments de France, poste élevé qu'il assume avec compétence, honnêteté et humour. Après avoir à sa suite découvert la beauté et les secrets de lieux mythiques tels que la cathédrale de Reims, le musée Toulouse-Lautrec, d'Albi, le phare de Cordouan, Crocamadour ou le mont Saint-Michel, c'est donc sur la côte biarrotte que se situe ce roman édité par Le Geste Noir et intitulé « Meurtre en Pays Basque », sous-titré « Quand le diable dansait à Biarritz ». Et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Jean-Pierre Allot. Bonjour Jean-Pierre Allot.
Bonjour Monique Fauché.
Alors, est-ce que je vous présente? Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont reconnu votre voix et votre nom, bien entendu. Vous êtes un homme, vous avez été un homme de télévision, vous êtes encore un peu homme de radio, à Radio Présence, dont vous avez animé les matinales, et vous vous tournez plus que jamais vers l'écriture.
Oui, c'est vrai. Alors, je suis ravi de me retrouver dans ce studio qui me fut familier tous les matins pendant 6 ans.
Et oui, de bons moments. Hein,
aussi. De bons moments et de bons matins.
Oui, de bons matins aussi.
Alors, l'écriture occupe une place de plus en plus importante.
Je dois dire à nos auditeurs que votre bibliographie est impressionnante. Il suffit d'aller sur Google et vous en êtes à combien d'ouvrages?
Je crois que j'en suis à mon 50e ouvrage à peu près, oui.
Vous avez commencé à quel âge, si je ne suis pas indiscrète?
Non, j'ai commencé à écrire...
Vous étiez 30, journaliste.
Oui, journaliste, 30, 35 ans. Et puis après, ça s'est accéléré à la quarantaine et puis à la cinquantaine avec la série Le sang de la vigne, qui a donné naissance à 25 romans. Et puis maintenant, cette série dont vous avez parlé, Les Séraphins Cantarelle, ce conservateur de musée qui est aussi un peu enquêteur.
Voilà. Alors, des romans, des nouvelles, des scénarios. Et certains portés à l'écran, donc le petit écran, mais ça va continuer, il n'y a pas de raison.
Et certainement le grand écran bientôt.
Il y a certainement le grand écran, ça part à l'étranger, enfin bon, d'ailleurs, à mon avis, les viticulteurs devraient vous dresser une statue.
Alors, ils me paient en liquide. C'est-à-dire que quand je vais dans certaines régions viticoles de France, je repars avec quelques caisses de vin. Voilà, c'est une manière d'être reconnaissant de leur part vis-à-vis de la promotion des vins de France, parce qu'avec Le sang de la vigne, c'est vrai qu'on a parcouru avec Pierre Arditi l'ensemble des grands terroirs viticoles de France et ce fut à chaque fois un vrai bonheur.
Il y en a encore en cours?
Non, alors là, j'ai arrêté la série des romans et donc par là même à la télévision, pour me consacrer à la nouvelle série, celle dont on parle aujourd'hui, les Séraphins Cantarelle, qui devrait s'appeler Le Châtiment des Pierres, car à chaque fois ça se déroule, vous l'avez dit, dans un monument.
Alors, c'est un roman censé être noir, plutôt sombre, la tempête fait rage, c'est vrai, mais cette histoire, si elle est jonchée de cadavres, comporte surtout des mystères. Alors, c'est une enquête, mais au départ, la venue de
Séraphin.
Gilles Cantac. Séraphin, pardon.
C'est très drôle que vous fassiez ce lapsus, parce que je me suis inspiré d'un conservateur de musée qui s'appelle Gilles Séraphin.
Oui.
Et mon personnage s'appelle Séraphin Cantarelle. Donc, dans votre lapsus, il y a un brin de vérité.
Alors, Séraphin Cantarelle, sa venue est tout à fait classique. Il s'agit d'un monument ancien dont il va s'occuper.
Voilà. Alors, en l'occurrence, là, c'est le château d'Ilbaritz, qui est ce château qui a été construit par un personnage complètement loufoque, qui était le baron de l'épée. Alors, qui était le baron de l'épée?
D'abord, attendez, une question. Comment vous avez découvert ce lieu?
J'ai passé mes vacances, moi, régulièrement sur la côte basque. Et surtout, je suis allé, j'allais me baigner sur la plage d'Ilbaritz. Et il y avait ce château qui surplombait la plage et qui a un côté complètement fantomatique. Parce qu'on se dit, mais qui a eu l'idée de faire un château sur une dune?
Oui, puis il n'y a pas un arbre, apparemment.
Ah mais non, c'est complètement dégagé. Et donc je me suis intéressé, il y a un livre qui est paru sur ce baron de l'épée, ce château. C'était un personnage loufoque qui, à la fin du XIXe siècle, C'était un personnage très fortuné. C'est la famille Wendel qui était des aciers Wendel qui, dans l'est de la France, ont connu de grosses fortunes. Il était pire que Cadet-Roussel. Il avait 15 propriétés. Et pas n'importe lequel. Il avait des châteaux en Provence, dans le Poitou, en Charente. Et il s'était entiché d'une jeune comédienne. Et pour lui montrer son amour, il lui avait fait bâtir un château, mais impensable. C'est une espèce de Louis II de Bavière, vous voyez. Oui, c'est totalement démesuré.
19e siècle quand même.
Voilà. Il a acheté une centaine d'hectares. Il faut s'imaginer ça,
énorme,
hein, autour de Biarritz.
C'était moins cher que maintenant, peut-être.
Oui, le foncier était certainement moins cher. Et les promoteurs immobiliers étaient moins nombreux. On est bien d'accord. Mais il a construit ce château avec plein de monuments autour. Il avait fait un pont-levis, il avait fait une tour crénelée qui donnait sur la plage et qui a, à la faveur d'une marée un peu trop impétueuse, a été emportée dans les flots. Et il avait mis des barbelés tout autour. C'était un camp retranché parce qu'il ne voulait pas que les gens du village, et les gens de Bidart en l'occurrence, aient accès à sa propriété.
Alors, dites-moi, je suis allée voir, évidemment, sur Internet, la photo de ce château qui a un style qu'on ne connaît pas forcément, mais il est pas mal. Il y a une ouverture sur l'océan magnifique.
Magnifique. C'était un passionné de Berlioz, c'était un passionné de Wagner. Il aimait les ambiances, vous savez, très, très tumultueuses.
Et quand il y avait une tempête. Là,
voilà, il jouait du piano, il avait installé une petite tour sur l'océan.
Qui a disparu.
Et là, il avait un piano à queue sur lequel il jouait. Mais il était surtout passionné d'orgue et il a imaginé un orgue Cavalier Coll, qui est
le roi des
orgues, et il a fait bâtir le château autour de l'orgue.
Et c'est étonnant.
Alors, il avait une fortune colossale et il n'a rien négligé. C'est-à-dire qu'il y avait tout le confort. Imaginez-vous que donc le château était terminé au début du XXe siècle, donc en 1900, juste avant la guerre, 1900, première guerre bien sûr, 1903, 1904. Et là, il y avait l'électricité, il y avait un système de chauffage exceptionnel, il y avait des baies fantastiques. Et cet homme-là était un hygiéniste. Il avait peur des microbes.
Oui, alors hypochondriaque. Hein.
Complètement hypochondriaque. Et donc, le personnel était extrêmement dévoué. Il devait laver trois fois les assiettes, changer les draps en permanence. Non, c'était un personnage.
Je pense à ce cinéaste milliardaire américain de 1930-40.
Alors, je vois pas qui vous faites allusion directement, mais oui. On a affaire à un maniaque.
Oui.
Un maniaque qui, parce qu'il a de l'argent, s'autorise tout. Et cette femme pour laquelle il a construit ce château, c'était une petite starlette, vous voyez, des musicals parisiens. L'histoire n'a pas duré très longtemps. Il l'a fait venir dans son château. Il la tenait recluse. C'était une sorte de barbe bleue, elle n'avait pas le droit de sortir. Elle habitait dans une des petites tours qui se trouvait sur la Grève, et quand monsieur, le baron de l'épée, voulait jouir de sa cocotte, il l'a convoquée. Hein,
oui,
et elle ne pouvait pas sortir de son château, et l'histoire dit que de temps en temps, elle s'évadait quand même.
Elle prenait
allait jusqu'au casino de Biarritz où elle avait, paraît-il, quelques amants.
Voilà. Alors, vous avez parlé, il y a de multiples. Cette propriété était incroyable. Bon, revenu à une plus petite mesure quand même, puisqu'il y a beaucoup de dépendances qui ont été démolies.
Absolument. C'est-à-dire, d'une part, la nature a fait œuvre de travaux de démolissement, puisque les marées ont contribué à complètement éliminer toutes les constructions qui se trouvaient sur la plage. Reste le château. Et puis, une partie des terres qu'avait acheté le baron de l'épée ont été revendues par la suite, parce que ce château est aujourd'hui encore maudit. C'est-à-dire, tous ceux qui ont été propriétaires de ce château n'ont jamais pu réussir quoi que ce soit à l'intérieur. C'est-à-dire que quand le baron de l'Épée a voulu le revendre, une fois que son amourette était partie, et il a voulu revendre le château, mais il lui avait coûté une fortune. Et donc, il ne pouvait jamais retrouver ses fonds.
Mais parce que construit avec des matériaux nobles.
Mais oui, il y avait du marbre. Et puis, alors, comme il fallait lutter contre les sels marins, il avait, et puis contre le vent, c'est-à-dire que vous avez de l'acier dans les chaque angle.
La toiture était scellée.
Exactement, arrimée au sol, avec des paratonnerres. Et puis, il avait fait construire un mirador. Alors, pourquoi un mirador, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement pour surveiller...
Sa belle.
il était complètement, je vous dis, comme on dirait aujourd'hui, complètement barge.
Moi, je pensais vraiment, je ne retrouve plus le nom, à ce magnat de la presse et du cinéma... Dans les années 30, un fou, il est mort, vraiment fou. Non, ben on retrouvera peut-être, oui. Nos auditeurs doivent le connaître. Voilà. Alors, bon, donc, Séraphin Cantagrel arrive avec son aide,
son assistant qui s'appelle Trélissac. Théo Trélissac est originaire de Corrèze, comme son nom l'indique. Hein, ça se termine en hac, comme beaucoup de patronymes dans le sud-ouest. Et il vient pourquoi ? Parce qu'il y a une rumeur qui circule comme quoi ce château va être détruit. Et il y a une association qui s'est montée, il y a des gens qui disent mais enfin on ne peut pas détruire ce château parce qu'en fait c'était des promoteurs immobiliers qui voulaient raser le château pour en faire un hôtel de luxe comme on en a vu fleurir sur la côte basque et ailleurs. Et là, il fallait à tout prix réagir. Et comme Séraphin Cantarel est le patron des conservateurs des monuments de France, il va faire une enquête tout de suite pour évaluer la dimension architecturale et historique. Là, nous sommes, on a bien compris, enfin nos auditeurs ont bien compris que nous sommes dans les années 1980, alors voilà. Quand on parle du baron de l'Épée, c'est bien avant, c'est au début du siècle.
Mais on en parlera de la construction de votre ouvrage. Oui, il y a aussi à dire, peut-être que, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais bien que vous lisiez un extrait qui parle un petit peu de cette villa, de cette
ce château, on peut le dire, hein, oui, parce que c'est une très belle villa, hein.
Oui, parce qu'en même temps vous brossez l'atmosphère aussi, les nuages violines barrer l'horizon, et c'est très beau, cette côte, elle est très belle,
elle est magnifique, parce que les Basques ont quelque chose de commun avec les Corses, c'est qu'ils ont su préserver leur côte.
Et ça, c'est
vraiment très important, parce qu'elle n'a pas été très, très abîmée, cette côte, sauf à Biarritz, et j'en parle dans le bouquin, où le maire de Biarritz a laissé pousser quelques horreurs. Voilà. Des nuages violines barraient l'horizon et l'Atlantique moutonnait comme dans les heures qui précèdent un coup de tabac. Cependant, pas de quoi contrarier les projets de promenade des deux hommes. Théo enfila son kawé, bleu marine, alors que Séraphin endossait son trench coat de chez Burberry, légèrement élimé aux manches. Arrivé au pied de l'énorme colonne blanche, Cantarel entreprit d'en faire le tour avant de désigner du doigt les trois couronnes, ces trois pics qui la Bidassoa a franchi, rappelle que l'Espagne reste une royauté. Alors, la colonne blanche, vous l'avez bien compris, c'est le phare de Biarritz, hein, qui trône. Alors, c'est vrai que monsieur a fait espagnol en seconde langue. Alors, il y a un dialogue qui se poursuit.
Oh non, on parlera de
Oui, entre Cantarel et Trélissac, parce que c'est Cantarel à la soixantaine ou la cinquantaine flamboyante, alors que Trélissac est jeune, il a à peine 30 ans.
Et on a le sentiment que c'est une association un peu comme père et fils.
C'est ça, hein, c'est ça. D'ailleurs, oui. Cantarel n'a pas d'enfant. Hein. Il est marié avec Hélène Cantarel, ils n'ont pas pu avoir d'enfant.
Et Trélissac n'a pas de père.
Oui. Et donc, quelque part, il l'a adopté, c'est son fils.
Une admiration et une affection commune.
Absolument, absolument. Oui, oui. Et puis, Théo Trélissac est un garçon très vivant, très, très, très ludique,
intelligent,
beau garçon. Et donc, il accumule les conquêtes féminines. Et ça amuse, et parfois ça,
il le rappelle à l'ordre.
Oui,
aussi,
oui, il le rappelle à l'ordre. Oui,
Cantagrel, oui.
Alors voilà, donc c'est vrai que dans cette mise en scène, parce qu'en fait l'important quand on est romancier, c'est de situer bien le décor, ce château donc d'Ilbarit, la ville de Biarritz, qui est une ville qui a connu Édouard VII, qui a connu Charlie Chaplin, vous savez, Maurice Chevalier, Josephine Baker, venaient passer leurs vacances.
Ah oui, c'était
Churchill.
Très...
Oui. Churchill venait, voilà, sur la côte basque. Et donc, on est en présence d'un lieu qui est extrêmement beau, qui a été abîmé dans les années 70.
Pas entretenu, non, peut-être, déjà.
Oui, mais vous savez, c'était l'époque du tout béton.
Oui. Hein,
et il y avait sur la grande plage de Biarritz un magnifique hôtel qui s'appelait le Victoria. L'hôtel Victoria, en hommage bien sûr à la reine Victoria d'Angleterre, il a été rasé pour faire cette espèce de gratte-ciel qui est vraiment une verrue dans le paysage de Biarritz.
C'est un immeuble ou...
Oui, c'est un immeuble à usage collectif, vous voyez, ouais. qui est sur la grande plage et qui dénote complètement avec, vous avez à côté le palais Eugénie, l'hôtel du palais où aura lieu le prochain G7
au mois d'août prochain. Oui, voilà.
Voilà, donc on a des monuments magnifiques. Et puis, il y a eu des erreurs en matière d'immobilier. Et c'est là, c'est tout ce qui tourne autour de des promoteurs immobiliers qui est un peu la clé de voûte de l'intrigue en question.
Et n'oubliez pas que nous sommes en 89. Maintenant, on est beaucoup plus vigilants, il me semble.
Hein. Oui, il y a eu la loi littorale, entre-temps. Oui. Voilà. Oui. Mais heureusement.
Il y avait un projet, entre autres, de golf, ce qui est le moins pire, si j'ose dire. Mais maintenant, il y a un golf.
Il y a un golf, et alors c'est un des plus beaux greens de la région, parce que vous surplombez l'océan Atlantique et vous vous retournez, vous avez ce château qui est la propriété aujourd'hui de celui qui a été à une époque patron du journal Libération, et qui voulait et qui veut transformer ce château en hôtel, sauf qu'il ne peut pas parce que le château est devenu monument historique.
Alors oui, le problème c'est que en 89 il était ni classé ni inscrit.
C'est vrai. Et là Séraphin Cantarelle va tout faire pour le faire classer, parce que en le faisant classer, il interdit aux promoteurs de faire quoi que ce soit.
Oui.
Et là, ça a été...
Urgence.
Et il a vite fait un dossier avec Théo, ils font un dossier, et ils vont plaider leur cause auprès de Jacques Lang.
On parlera de Jacques Lang, mais il y a quelqu'un qui a donné l'alerte.
Oui, alors ça c'est un ami de Séraphin Cantarelle, qui est un amoureux du Pays Basque, et qui a sensibilisé un peu son ami Cantarelle en lui disant « mais on est en train de commettre sur la côte basque un acte qui sera irréparable ». Et c'est de cette manière qu'on retrouve donc plusieurs personnes qui vont devenir des alliés de Séraphin Cantarelle pour défendre ce projet et sauver le château de la démolition.
Voilà, alors oui, cet homme qui a donné l'alerte est un ami, une très bonne relation, disons-nous.
Il s'appelle Jean de Roberti.
Donc, qui est cultivé, voilà. Qui fait des conférences, enfin. Et qui a une épouse, qui a son rôle à jouer, mais surtout à la fin de l'ouvrage. Voilà. Et donc, ils vont se retrouver... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller repérer les lieux.
Ils vont repérer les lieux, bien sûr, pour rencontrer le prétendu propriétaire. Alors, on est dans les années 80, ça va être difficile, et ils vont se retrouver avec un personnage qui habite le château, lui aussi un peu loufoque, hein. C'est-à-dire on sent bien qu'il joue un double jeu, il veut vendre le château sans le vendre, et il fait croire qu'il est le vrai propriétaire. En fait, le vrai propriétaire de ce château n'est autre que sa femme. C'est elle qui a de l'argent et qui vit à Paris.
Oui.
Et donc...
Là, quand ils entrent dans les lieux, de toute façon, c'est sinistre.
Ah, c'est sinistre parce que c'est un peu le château tel qu'il est aujourd'hui. Il faut savoir que ce château, quand le baron de l'Épée a voulu le revendre, il y a eu la guerre de 14... Il est devenu un hôpital militaire pour les
donc là, l'esthétique ne jouait pas.
Voilà. Et après, il y a eu une succession. Il y a eu Guezy, qui était un musicien, qui l'a racheté.
À cause de l'orgue
Alors, à cause de l'orgue et parce qu'il avait quelques attaches au Pays Basque. Et puis après, il y a eu la guerre de 39-45. Et là, c'est la Gestapo qui a fait son QG. Et puis après, c'est passé de main en main. Ça a été racheté par la chaîne thermale du Soleil, qui voulait en faire un lieu de cure sous forme d'hôtel.
Mais il n'y avait pas de soleil.
Ben, le soleil ne s'était pas levé ce jour-là, puisqu'ils n'ont jamais pu le faire, et pour cause, parce qu'après il a été classé. Donc, et puis, voilà, tous les gens qui se sont succédés à la tête de ce château, qui ont été propriétaires, eh bien, l'affaire a tourné mal. Comme si ce château était maudit véritablement. Et c'est la raison pour laquelle on peut penser que, le titre c'est « Quand le diable dansait à Ilbarit », puisque c'est Ilbarit, c'est le nom de ce château, on peut penser qu'il ne connaîtra pas de répit, qu'il est né d'une folie et il est condamné à rester folie. Ouais.
Et il risque de tomber en ruine. Il y a l'usure du temps, mais surtout l'usure de l'eau de mer.
Oui, l'océan, vous savez, c'est ravageur. C'est ravageur. Quand vous avez une maison au bord de la mer, vous êtes obligé de la repeindre constamment. Et là, on est en présence donc de ce château qui va être menacé si toutefois il n'y a pas l'intervention ministérielle.
Alors, Jean-Pierre Allot, je vous propose de faire une pause musicale. Vous avez de me proposer vous-même Count Basie, un extrait. Alors, je ne sais pas quel morceau.
On va l'écouter.
Carrément.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons le Pays Basque et Jean-Pierre Allot venu nous parler de son nouveau roman intitulé « Meurtre en Pays Basque, quand le diable dansait à Biarritz. Vous
avez dit... À Biarritz.
Ah oui.
Parce que Biarritz...
Oui. Oui, d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que c'est un mot basque qui signifie quelque chose?
Enfin, je n'ai pas la signification.
Oui, de la
Je crois que ça veut dire près de la mer, mais enfin, vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Et Biarritz, c'est aux portes de Biarritz. Hein,
oui,
c'est-à-dire
que
c'est à une portée de canon, véritablement. Quand vous êtes à Biarritz, vous voyez la silhouette au loin du château d'Biarritz.
Oui. Mais alors, je me suis dit, tiens, le suffixe a peut-être un sens, puisque c'est le même que Biarritz.
Oui, absolument. Ouais. Voilà, donc. Alors, je ne connais pas, je ne maîtrise pas la langue.
Non, vous n'avez pas travaillé la langue basque,
non.
Qui paraît-il très particulière.
Et qui serait une des langues les plus anciennes au monde.
Et indo venant de nom.
Oui, c'est ça, voilà. Elle serait à la confluence de plusieurs courants.
Oui. En tout cas, il n'y a pas de semblable dans l'Europe. Hein,
non. C'est ce que disent les linguistes.
Mais enfin, bon, là, je pense que Séraphin et Théo ne s'occupent pas de ça.
Non,
voilà tous les deux, toujours associés. C'est une association bien sympathique où ils font preuve d'humour souvent. Et donc, ils vont explorer les lieux. Et reçus par le propriétaire, dont on va savoir qu'il n'est pas le propriétaire, mais il se passe plusieurs choses parallèlement, en fait. Il y a des choses inquiétantes qui mettent la puce à l'oreille.
Oui, parce que il y a un personnage, notamment qu'on rencontre Séraphin Cantarel, qui s'appelle Volodya Polyakov, et qui est un ancien cinéaste et qui est passionné par le surf et qui a fait un documentaire.
Oui, alors là, nous sommes beaucoup plus tard.
Ah oui, ça c'est beaucoup plus tard.
Oui, d'accord.
Mais enfin, après, il y a d'autres personnages qui viennent se greffer, vous avez raison. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a Volodya Polyakov qui va découvrir quelque chose assez inquiétant, c'est-à-dire que...
Et qui aura beau secouer terre et ciel... ça, il n'y aura pas de suite.
Non, il n'y aura pas de suite parce qu'on s'aperçoit que dans cette côte basque, il y a plusieurs disparitions. Et notamment, la plupart, ce sont des surfeurs qui disparaissent bizarrement sans que l'on retrouve leurs cadavres.
Mmh. Et que l'océan aurait dû
renvoyer. Vous savez qu'un noyé, en principe, retrouve le cadavre sur la grève quelques jours plus tard. Et là, en l'occurrence, donc, il y a plusieurs disparitions qui restent inconnues et inexpliquées aux yeux de la justice.
Donc, 30 ans après, on n'en parle plus, mais il y a des indices très curieux quand même.
Voilà, des indices qui vont permettre peut-être de dénouer ces histoires de disparition. Et on va être très surpris d'apprendre que, justement, quelques jours avant que Cantarel et Théo aillent dans le château, chez Deschanel, eh bien, il y a un garçon qui a été conduit par un chauffeur de taxi dans le fameux château, et dont on n'a plus retrouvé trace.
Et c'est le chauffeur de taxi qui en informe, et qui, quant à elle.
Oui, ouais. Voilà. Et donc, on s'est dit, mais comment se fait-ce que ce fameux garçon disparaisse comme ça, et que le dernier lieu, ce soit, qu'il ait fréquenté, ce soit précisément le château d'Biarritz. Et là, on va s'apercevoir que ces disparitions sont plus ou moins liées au château d'Biarritz. Alors,
et d'ailleurs, Théo, l'associé qui a de l'oreille, ce petit a de l'oreille, dit, moi, on est entré dans le château, j'ai entendu
des gémissements.
Oui, et bon, Séraphin lui dit, il a peut-être moins d'oreilles compte tenu de l'âge.
Oui, et puis vous savez, quand vous êtes dans ces châteaux, dans ces bâtisses qui sont battues par les vents, parce que c'est un sort de tempête,
tous
les bruits sont suspects.
Oui.
Et là, il a entendu comme un gémissement. Et sa perspicacité, finalement, elle sera mise à l'épreuve et se révélera très, très, très pertinente. Mais ça, c'est...
Alors, on se rend compte qu'il y a ces disparitions. On se rend compte, petit à petit, qu'il y a quand même... Il y a le problème de ces surfeurs. On sait qu'il y a de la drogue aussi hein, parmi les surfeurs. Mmh. On sait qu'il y a des promoteurs qui sont là, tels des rapaces.
Voilà.
On sait que l'Espagne est tout près et le TA Exi est
exactement.
En plein. Voilà. Ouais. Donc, il y a beaucoup de pistes.
Ah, il y a plusieurs faisceaux. Plusieurs ouais, faisceaux. Qui, et du reste, les deux enquêteurs qui mènent, qui sont deux Basques, qui mènent l'enquête, sont à la croisée des chemins. C'est-à-dire que, vous avez raison, il y a la disparition de ces surfeurs, il y a plusieurs attentats commis au Pays Basque.
Alors, on va en parler de cette explosion, parce que ça, c'est le cas de le dire, ça fait grand bruit. À la page 193, par exemple, il y a, vous pouvez nous en lire un extrait,
alors,
peut-être.
193.
Alors là, on voit que ces promoteurs sont prêts à tout.
Oui, sourde et violente, la déflagration avait réveillé tout le quartier de l'Atalaye vers les coups de 5 heures du matin. C'est dans une maison de style art déco que se trouvait le siège de BAT Atlantico, la société de promotion immobilière, à qui l'on prêtait les projets architecturaux les plus extravagants. Philippe Lapurdi, son président-directeur général, était, disait-on, un proche du maire de Biarritz, au point de financer sous le manteau les campagnes électorales de quelques notables du coin, prêts à concéder le domaine public, moyennant quelques petits arrangements. La bombe avait détruit une partie des bureaux, ainsi que les larges vitrines où se déployaient les programmes immobiliers avec, je cite, « vue sur l'océan ». C'est les programmes que commercialisait donc le fameux promoteur. Et les habitants de l'Atalaye virent d'emblée dans cet attentat une nouvelle signature de l'ETA. On ne déplorait certes aucune victime, mais le message était clair, il avait valeur d'avertissement. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un attentat sur la côte basque, évidemment, l'ETA était en ligne de mire. Hein, puisque
oui, parce qu'il se repliait facilement en
sur
France,
la partie française.
En,
oui,
sur la partie française.
Oui. Voilà, absolument. Oui. Et on va s'apercevoir que cet attentat, finalement... eh bien, n'avait pas tout à fait les origines que l'on,
oui,
que l'on imagine.
Oui, et puis on imagine ce qui se passe dans cette ville de Biarritz, parce que vous la décrivez fort bien. Vous décrivez ces lieux plutôt chics, bien fréquentés, très calmes, très
les
posés.
Les salons de thé.
L'hôtel est très, oui, très beau.
L'hôtel original,
la pâtisserie,
oui.
Le salon de thé, la liqueur Isara que savoure...
Jean de Roberti.
Oui, Jean de Roberti. Bon, une ambiance feutrée. Bon, et justement, on se dit, sous ce feutre, qu'est-ce qui existe ? Parce que, bon, on vient d'en parler, hein, évidemment, il y a le théâtre, mais il y a peut-être aussi de la drogue, parce que, bon, il y a un moment donné, on se pose la question, il y a les promoteurs toujours là, évidemment, et puis peut-être des problèmes politiques aussi, des disputes, des rivalités.
Voilà, j'ai essayé de cristalliser dans ce roman tout ce qui fait... ou tout ce qui a fait la côte basque dans ces années 90 ou 80-90 où on s'apercevait que c'était l'époque Bernard Marie qui n'était autre que le père de Michel Alliot-Marie hein, donc avec donc membre éminent du RPR et où c'est vrai que l'immobilier était quand même c'était la clé, c'est-à-dire c'était l'argent roi qui finançait les campagnes politiques et donc on est en présence d'une affaire qu'on peut penser éminemment politique. Sauf qu'il y a des disparitions, et que là, qui dit disparition dit affaire criminelle, et on ne sait pas sur quel pied danser. Et il m'a beaucoup plu dans ce roman de promener le lecteur, ou la lectrice en l'occurrence, et évoquer tout ce qui a agité ce. Parce que c'était un véritable traumatisme, le théâtre. Et l'immobilier a été aussi quelque chose qui a défiguré une partie de la côte basque.
Et divisé la population.
Et divisé la population. Et aujourd'hui encore, vous avez ces verrues dont on dit, mais...
Quand est-ce qu'on va les abattre ?
Exactement, voilà. Et à côté de ça, vous avez ce château qui, un siècle et demi plus tard, existe toujours, est fantomatique, et on dit, c'est le château hanté.
Oui.
C'est le château hanté, parce qu'il n'y a personne qui l'habite.
Mais
personne.
Continue à se passer de drôles de choses, parce qu'il y a la vraie propriétaire, l'épouse, qui n'est d'épouse que de nom, puisqu'elle vit à Paris, elle ne veut plus voir son mari, qui a 1% de la propriété, je crois.
C'est ça, oui.
Qui l'a échappé belle.
Oui,
qu'il a échappé belle.
Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'elle était victime d'une tentative d'assassinat, mais sauf que le meurtrier s'est trompé de sonnette.
Bon. Ouais, ouais. Bon, alors une cantatrice a disparu, voilà, une erreur, une erreur.
Oui.
Mais... Bon. Et alors, oui, il y a ça, donc déjà on se dit, tiens, mais pourquoi? Parce que elle veut vendre, veut se débarrasser de ce poids trop lourd qui est ce château en ruine, ouais. qui menace ruine en tout cas, ouais. tandis que son mari, lui, il tient.
Il tient à le garder parce que c'est lui qui l'habite. Et... Il l'habite et manifestement, il accueille en son sein des gens.
Il organise des fêtes.
Il organise des fêtes.
Nous qui le croyons démunis, oui. désargentés.
Et voilà. Et, manifestement, ces fêtes sont un peu crapuleuses. Et sont financées par qui, d'après vous?
Et oui, on se pose des questions. Voilà. On se pose des questions, on n'en dira pas
voilà.
plus.
Et qui a intérêt à maintenir le château en l'état et ne pas le mettre entre les mains des promoteurs? Parce que c'est ça.
Alors, quand vous dites en l'état, en tout cas... Cantarel a eu beaucoup de mal à supporter le froid qui y sévit.
Oui.
Parce que plus rien ne fonctionne quasiment.
Ah, bah oui, vous savez, c'est un peu les courants d'air. Quand vous visitez le château d'Ilbaritz, alors moi je l'ai visité dans ses fondations, dans les caves.
On ne vous a pas permis, compte tenu du fait que vous écriviez quelque chose?
Non, parce qu'il est gardé un peu comme une forteresse. Mais,
Pourquoi
parce que le propriétaire actuel, M. Ledoux, a un projet qui est un projet d'hôtellerie, comme je vous l'ai dit, mais qui se heurte aux bâtiments de France qui ne veulent pas que le projet dénature le château. Donc aujourd'hui, c'est au point mort. D'accord. Il l'a acheté, je crois, il y a 7 ou 8 ans, mais rien n'a bougé. Et vous avez une carcasse vide, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous avez de beaux parquets.
Abîmés.
Parce que abîmés avec, ça, oui. Voilà, avec la corrosion des sels marins. Et vous avez cette carcasse magnifique, mais vous avez des taches de rouille qui dégoulinent sur les murs. Vous avez déjeuné toutes les plantes sauvages de la côte qui...
Le jardin n'est pas entretenu.
Non, il y a juste un gardien qui est là pour éviter que des gens viennent piller. Mais piller quoi? Parce qu'il n'y a plus rien à voler.
On imagine le gardien dans cette demeure.
C'est totalement anachronique. Alors, l'orgue dont je vous parlais, le Cavalier Cole, vous pouvez la retrouver, vous le retrouvez en l'occurrence, car il est aujourd'hui au Sacré-Cœur à Montmartre. Voilà.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a été...
Racheté peut-être?
Voilà, racheté, oui. Et il est à Paris. D'accord. Vous pouvez le voir et sachez que pendant quelques mois seulement, il a été installé dans le château d'Ilbaritz.
Donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes là en 1989. Il y a eu la disparition d'un surfeur signalé par un chauffeur taxi. Il y a eu une explosion bizarre dans les bureaux d'un promoteur. Il y a eu une tentative d'assassinat. Et puis, Théo, le bras droit de Séraphin Cantarel,
qui se fait attaquer aux abords du phare de Biarritz, qui se reçoit un coup sur la tête. Et dont on peut penser que Cantarel et Trélissac, quand ils débarquent à Biarritz pour mener leur enquête, pour en clair, ils veulent quoi? Faire classer le château monument historique, comme ça c'est le seul moyen pour bloquer toute vente ou toute opération ou spéculation immobilière. Et donc, ils reçoivent déjà des lettres de menace. Hein. Ils ne sont pas les bienvenus. Cantarel que Trélissac. Et Trélissac se fait agresser, oui.
Pour la procédure, quelle est la procédure pour un classement de...
Alors, vous savez, il faut faire un dossier montrant que le monument a une vraie valeur sur le plan historique et architectural. Et là, il faut argumenter.
Et touristique, en l'occurrence.
Et touristique, par là même. Et donc, là, c'est assez facile, puisque on est en présence d'un château avec une architecture tout à fait particulière. Il ne regardait pas les dépenses, hein, le baron de l'épée. Il a fait appel aux menuisiers les plus doués, aux maçons les plus doués. Comme il avait énormément d'argent, il ne regardait pas la dépense. Et donc, une fois que vous avez bâti le dossier, après, il faut le décret, vous savez, au journal officiel où on vous dit le château Tartempion est classé monument historique. Après, vous ne pouvez plus y toucher.
C'est fini.
Et Et là, Cantarel a tout fait pour que Jacques Lang, qui était le ministre de la Culture de l'époque, puisqu'on est sous le gouvernement socialiste de François Mitterrand, eh bien, puisse classer ce château et arrêter la menace donc, de démolition du château.
Oui, il faut reconnaître que Jacques Lang, comme André Malraux, était très bien au poste qu'ils occupaient.
Voilà, c'est vrai que... et puis politiquement, il y avait quelques attaches socialistes en Pays Basque.
La demeure de Mitterrand, François Mitterrand, était
on n'est pas loin.
À 30 kilomètres.
Eh oui, la Tché, c'est pas très loin quand même. Et donc, tout ceci faisait partie de ces éléments concordants qui ont permis, effectivement, de mettre donc, le château d'Ile-Barris à l'abri de cette démolition.
Alors, je vais dire à nos auditeurs qu'en fait, bizarrement, votre roman, qui se situe essentiellement en 1989, commence par 2017.
2017, oui. C'est, pour être franc avec vous, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire le roman. Donc, ce roman-là.
Bon, et après, vous avez fait marche arrière, si je comprends bien.
Et après, j'ai regardé dans le rétroviseur. Mais oui, parce que c'est Séraphin Cantarel qui va à Biarritz et qui rencontre ce fameux Volodya Polyakov, qui est un cinéaste...
De documentaire,
voilà, de documentaire, qui justement était fasciné par le surf, et tous les jours filmait notamment un surfeur qui était hyper doué.
C'est vrai qu'il y a de très belles photos et de très beaux films de surfeurs et de vagues.
Oui.
C'est magnifique, surtout avec des éclairages particuliers.
Exactement. Il y a un spot, notamment, sur la Côte des Basques, qui est très connu des surfeurs.
Je crois que c'est Biarritz qui est en Europe, la station.
Exactement. Oui. Après, il y a un peu la côte landaise avec Oscar et Biscarros. Voilà, mais c'est vrai que... Et donc... En rencontrant ce Volodya Polyakov, Volodya va raconter une histoire tout à fait troublante et qui est le point de départ du roman, qui fait flipper, hein, qui fait peur. Au bout de cette histoire, il y a une scène un peu
hard.
Hein, voilà. Et là, on va comprendre que peut-être les disparitions des surfeurs ont une explication. Et ça permet... de résoudre à la fois l'intrigue policière et les disparitions des surfeurs de ces années 80, et à la fois le lecteur va découvrir l'histoire de ce château qu'il ne soupçonnait pas, et c'est l'occasion de découvrir aussi qui était ce fameux baron de l'épée. Donc j'enchevêtre tout ça.
Son récit est très précis, 30 ans après. Et j'aimerais que vous, à la page 19, ça débute d'une manière, une mémoire qui éclaire, effectivement.
Alors, il n'y avait rien à comprendre. Ce garçon domptait les vagues, alors on parle bien sûr du surfeur, hein, comme s'il voulait se rendre maître de la mer, aussi déchaîné soit-elle, ce devait être obsessionnel chez lui. À la fin, vous ne filmiez plus, c'était inutile. Vous vous contentiez de l'épier ? Pas du tout. Il était comme un élément au milieu d'un tableau que l'on ne se lasse pas de regarder. Vous savez, à cet endroit, la côte est un véritable enchantement. Dans votre dos, les Pyrénées vous poussent vers le large. Par temps clair, on peut apercevoir les lointains sommets des Asturies. Toute une partie de la côte cantabrique jusqu'à Santander. Et puis, au nord, soupira-t-il, la côte d'Argent avec la forêt des Landes qui, par grand vent, embaume jusqu'ici. Voilà, ça permet de planter le décor, vous voyez.
Oui,
et ce fameux Volodya va explorer, va suivre ce surfeur qui, à un moment donné, laisse sa planche de côté et va rentrer dans les entrailles du château. C'est pas une porte dérobée, c'est-à-dire que le fameux baron de l'épée avait fait des galeries tout autour du château.
Pourquoi des galeries ?
Des galeries qui alimentaient tout ce qui était accessoire. C'est-à-dire que ce baron de l'épée ne voulait pas voir ses cuisinières. Donc, il avait fait les cuisines du château au pied de l'océan. Même chose pour les laveries, même chose pour l'assainissement. Vous voyez, il voulait voir personne.
Il était
tout seul et il était avec sa solitude.
Voilà, je pense à Citizen Kane.
Citizen Kane, oui, bien sûr. Oui, oui. Ça aurait dû effectivement tilter comme. Voilà. Mais oui, c'est ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que on était en présence d'un homme un peu foutraque qui ne supportait pas les autres.
Oui.
Et donc,
et tout ce qui était hors la beauté et l'art.
Voilà, c'est ça.
La musique.
Il n'aimait que la musique, Wagner, donc, son piano, son orgue, et voilà. Et cette femme dont il était tombé amoureux, mais enfin, il n'a pas eu beaucoup d'histoires féminines, véritablement. Et donc, il y avait tout autour du château des galeries par lesquelles passaient les eaux usées, l'électricité, parce que tout était éminemment moderne. Alors, il ne supportait pas le soleil. Ah, il était allergique.
Oui, les terrasses sont protégées.
Et alors, toutes les terrasses, mais aussi tous les chemins de promenade,
oui,
vous savez,
sont couverts.
Sont couverts, voilà.
Il y a la pluie aussi.
Il y a la pluie, et sur la côte basque, elle intervient fréquemment. Mais c'est pour vous dire que, donc, autour du château, il y a ces galeries. Et j'ai emprunté une de ces galeries.
Par hasard,
tout à fait par hasard, quand j'ai fait mes repérages, parce que vous me connaissez, je suis avant tout journaliste, Monique.
Et vous travaillez énormément avant d'écrire, énormément les...
Voilà, j'ai besoin d'avoir une documentation et d'aller sur les lieux pour sentir. Parce que vous ne pouvez pas décrire une tempête si vous n'êtes pas sensible au vent marin, aux odeurs,
sons,
voilà.
Il y a tout.
Et donc, j'ai emprunté une de ces galeries. Et figurez-vous que ces galeries mènent aux caves du château. Et que si on veut continuer, on peut pénétrer dans le château sans problème aucun. Aujourd'hui encore, en 2019.
Oui, oui.
Et donc, ça m'a amusé parce que je suis rentré dans cette galerie qui est sombre, évidemment, comme un vrai tunnel. Et heureusement que j'avais mon téléphone portable avec, vous savez, la fameuse pile qui permet d'éclairer. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les caves du château et que je pouvais...
Comme l'avait fait cet homme 30 ans avant.
Voilà. Et ça, c'est assez fabuleux parce que, vous savez, quand vous voulez écrire un roman... vous avez une intrigue dans la tête et puis vous allez inspecter les lieux et à un moment donné...
Parce que vous prenez... C'est ça, il y a le fictif, mais il y a la réalité.
La réalité, voilà.
Oui.
Je peux vous dire que toute la scène du premier chapitre, je l'ai vécue avec la même émotion que que Volodya, le fameux cinéaste.
Voilà. Alors, évidemment, il y a une fin, mais n'est-ce pas une femme qui va mettre... Séraphin Cantagrel, sur la voie.
Alors, les femmes...
On n'a pas parlé d'Hélène,
mais
quelle erreur.
Hélène est la femme de Séraphin Cantagrel. Et Hélène est archéologue et elle a une bonne connaissance de l'histoire. Et dans le bouquin, elle est passionnée, elle s'apprête à partir en Irak pour retrouver les jardins de Babylone. Vous savez, ces fameux jardins suspendus.
Je pense qu'elle ne partira pas.
Elle ne partira
finalement.
Pas, hélas. Mais c'est l'occasion de rappeler l'histoire des jardins
que vous racontez très bien.
De Babylone. Oui. Et voilà, mais... Hélène est le plus sûr soutien de Séraphin quand il a une enquête à mener.
Et en plus, elle a du bon sens.
Oui.
Elle est perspicace, elle est un tantinet moqueuse. Et elle aime bien également Théo, c'est un peu son fils aussi.
C'est un peu son fils et Théo est...
charmeur, c'est un charmeur.
C'est un charmeur et puis il a un petit faible pour Hélène, parce qu'elle est encore une très belle
femme,
vous savez.
Oui.
Elle est... Je crois avoir assez bien campé les deux personnages que sont Séraphin et Hélène Cantarelle. Alors Séraphin est
un couple unique,
il n'a pas pu avoir d'enfant. Oui. Lui est plutôt de droite, il est plutôt conservateur, il est très cultivé et elle est plutôt de gauche, on sent que...
Mais ils sont soudés,
parce qu'ils ont cette passion pour l'histoire et puis ils ont tellement d'histoires entre eux qui les unissent, vraiment.
Tout à fait. Alors oui, je disais que c'est une femme, et quelle femme venue du nouveau continent qui va mettre quand même Gilles Cantagrel, Séraphin
Cantagrel,
sur la voie
de la rédemption.
C'est un personnage aussi.
Jean de Roberti a épousé une femme qui... qui a traîné à Hollywood, vous savez, ces starlettes dont on ne sait pas vraiment si elles ont joué un rôle.
En tout cas, qui a épousé quelqu'un de très riche.
Voilà, voilà, voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, cette femme qui a épousé quelqu'un de très riche et qui s'est retrouvée veuve a épousé ensuite Jean de Roberti. Elle a un vrai petit magot à sa disposition. Et elle a
un goût pour le mécénat, en quelque sorte. Parce qu'on regarde à Versailles, beaucoup de travaux ont été effectués avec l'argent
des mécènes étrangers. Et elle va racheter le château d'Ilbaritz. C'est un peu un clin d'œil à l'histoire, puisque là, actuellement, c'est l'ancien patron de Libération qui l'a acheté, ce château. Oui. Mais on ne sait pas ce qu'il va en faire. Et là, dans le roman, évidemment, son mari, Jean de Roberti, qui est un historien, journaliste et conférencier. Et donc, elles vont vivre dans ce château du Baris et le faire renaître.
Et va raconter des choses qui vont mettre Cantagrel et... Théo.
Oui.
Sur la bonne voie.
Sur la bonne voie, mais...
On ne peut pas en dire plus. On sait qu'il existe toujours et qu'il est... On le voit, on ne le visite pas. Je sais que vous avez eu un prix pour cet ouvrage.
Oui, j'ai eu le prix des Trois Couronnes, qui est un prix littéraire qui...
C'est royal.
Oui, je parle d'ailleurs des Trois Couronnes. Les Trois Couronnes, vous savez, ce sont trois pics qui se trouvent au-dessus de la Côte Basque. Hein, voilà.
Et il y a un petit clin d'œil aussi, vous parlez d'un Jean-Pierre Allot que l'on connaît, oui, qui est un artiste peintre.
Exactement. Hein, oui. Vous savez que...
Voilà. Ceci dit, je trouve que les syndicats d'initiative devraient vous remercier encore plus chaudement, car vous arrivez à piquer l'intérêt et la curiosité des lecteurs. Bon, non, on ne vous embauche pas, là, au niveau de...
Écoutez, j'essaie dans chacun de mes romans de faire découvrir des lieux que l'on ne connaisse pas, que l'on ne connaît pas forcément. Et le château d'Ilbaris, autant la cathédrale de Reims était très connue, autant le musée de la Berbille était... Mais le phare de Cordouan ne l'était pas beaucoup. Le château d'Ilbaris non plus. J'espère qu'au travers de ces romans, eh bien, ils ont accès à notre notoriété.
Voilà. Un grand merci, Jean-Pierre Allot. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un roman noir, Meurtre en Pays Basque, quand le diable dansait à
Ilbaritz.
Aux éditions...
Je vous amènerai au château d'Ilbaritz.
Aux éditions Le Geste Noir. Un grand merci.
Merci à vous.